Donc, allez dans le livre des Actes, chapitre 1. Alors, Actes chapitre 1. Est-ce qu'on peut se lever peut-être pour lire ensemble? Je sais qu'il y a différentes versions. Si vous avez la bonne version comme la mienne, vous allez être capable de me suivre. Non, c'est. Je sais que vous avez des bonnes versions, vous autres aussi. C'est toutes des traductions de la Bible. Alors, on va lire ensemble les 14 premiers versets. Ça va-tu? Actes chapitre 1, à partir du verset 1. On y va ensemble. Théophile, j'ai parlé dans mon premier livre de tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner dès le commencement jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres par le Saint-Esprit aux apôtres qu'il avait choisis. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. « Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. » Alors les apôtres, réunis, lui demandèrent, « Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? » Il leur répondit, « Ce n'est pas à vous de connaître le temps, les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Quand ils furent arrivés, ils montèrent dans la chambre haute où ils se tenaient d'ordinaire. C'était Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe, Thomas, Barthélemy, Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le Zélote et Jude, fils de Jacques. Tous, d'un commun accord, persévéraient dans la prière avec les femmes et Marie, mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole ce matin dans nos cœurs. Puis vous asseoir. Alors, si vous remarquez les versets 1 et 2, une des choses qu'on voit ici, c'est que Luc commence son livre des Actes là où il a laissé son évangile, l'évangile de Luc. Alors, il écrit à Théophile, la même personne. Et là, il précise ici tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Vous voyez, la façon que Jésus procédait, lui, il enseignait pas puis il faisait pas après. Il faisait puis ensuite il enseignait. Alors, il montrait par sa vie, par son exemple, et ensuite il enseignait. C'est comme si sa vie parlait tellement fort qu'ensuite les disciples étaient curieux de savoir. Comme quand ils leur ont dit, monte-nous à prier. Pourquoi que les disciples sont venus à leur demander à Jésus, monte-nous à prier? C'est parce qu'ils l'ont vu prier. Ils ont vu la manière qu'il priait. Ils ont vu l'intensité dans ses prières. Et là, ils ont été attirés à lui. Et ça, c'est une vie qui parle. Hein? Quand on parle d'une vie qui parle, là, Jésus avait cette vie qui parlait. Alors, le livre des Actes décrit, en fin de compte, l'accomplissement initial de la mission que Jésus a laissée dans Matthieu 28, et puis les versets 19 et 20, qui est « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Alors ici, on voit dans le livre des Actes l'accomplissement initial, parce que c'est pas la fin naturellement, c'est vraiment cet accomplissement-là initial. C'est le début de cet accomplissement et on voit que ça se déroule tout au long du livre des Actes. Alors Luc retrace le commencement, la croissance et le rayonnement fulgurant de l'Église au premier siècle. Les dernières paroles du Seigneur avant son ascension se sont réalisées à la lettre dans le livre des Actes. Quelles sont les dernières paroles que Jésus a prononcées à ses disciples? Non. Non, ce n'est pas les dernières paroles que Jésus a prononcées, parce que ça, c'est dans Matthieu 28. Hein? Ça, c'est les dernières paroles qu'il a prononcées. Hein? Non? Non? Matthieu 28. Quelles sont les dernières paroles que Jésus a prononcées à ses disciples, à part de l'apôtre Jean? Parce que là, il... Hein? Non? Ah, voilà, on vient de lire. C'est dans Actes 1-8. Voyez? Mais vous recevrez une puissance. Ça dit tout de suite, après avoir dit cela, il fut élevé. Ça, c'est les dernières paroles. Jésus leur dit, vous allez avoir une puissance, vous allez recevoir le Saint-Esprit. Puis une fois que vous allez avoir reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez être mes témoins. Et là, il énonce même comment ça va se faire, par où ça va se faire, un peu comme l'itinérance de leur ministère. Alors, le Seigneur avait déjà tout placé ça devant eux. Ça, c'est les dernières paroles que le Seigneur a prononcées. Et vous savez, le livre des Actes, c'est la croissance de l'Église par le Saint-Esprit. Et Acte 1-8 qu'on vient de citer, qu'on vient de voir, énonce justement cela. Et si vous tournez dans Acte 9-31, qui est un peu plus loin, Acte 9-31 dit ceci, et ça résume très bien ce qui se passe dans le livre des Actes. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. C'est très clair. Ce que j'aime ici, c'est notre vision d'Église. On a 7 A, mais ça commence comment? Par le Saint-Esprit. Si c'est pas par l'assistance du Saint-Esprit, on travaille en vain. C'est des efforts humains, c'est de l'argent qui est dépensé, c'est des activités qui sont organisées, mais si c'est pas par le Saint-Esprit, je suis désolé, mais on travaille pour rien. Parce qu'il faut absolument que ce soit par le Saint-Esprit. C'est pour ça que Jésus a dit, attendez, partez pas en peur, là. Hein? Je m'en vais, mais attendez, vous avez besoin que je vous envoie le Saint-Esprit. Et après, vous allez être mes témoins. Ça, c'était le programme du Seigneur. Ils savaient très bien que s'ils avaient le Saint-Esprit et qu'ils étaient remplis du Saint-Esprit et qu'ils laissaient le Saint-Esprit agir dans leur vie, le travail était pour se faire. Alors ça, c'est vraiment important. Et c'est tellement intéressant de voir que Acte 1-8, en fait, est vraiment ce qui donne la structure au livre. OK? Lorsqu'on regarde le livre, la manière qu'il est écrit, que Luc l'a écrit, il a vraiment respecté l'itinérance, c'est ça, on dit une itinérance? Itinéraire, OK? Parce que ça me semblait que ça sonnait, hein? Itinérance. Quand on parle des itinérants, il y a quelque chose qui fonctionne pas, là. Itinéraire! Vous voyez, c'est d'avoir été à Vancouver, là, la pression dans l'avion, hein, ça. OK, c'est un itinéraire. Bon, voilà. Et regardez bien comment le livre des Actes est divisé. Je vous ai fait un petit survol, là. Voilà. On le voit bien? Est-ce qu'on peut éteindre peut-être un petit peu les lumières? On va peut-être voir mieux. Donc, ici, on voit la première partie du livre, qui est du chapitre 1 jusqu'au chapitre 8, verset 4. On voit qu'ils sont témoins à Jérusalem. Donc, l'action, là, se passe vraiment à Jérusalem, dans ces chapitres-là. Ensuite, whoop, il y a un chiffre qui se passe. Et là, Dieu fait quelque chose. Et là, on voit que, whoop, là, le Seigneur, il veut, justement, qu'ils aillent un peu plus loin. Et là, on voit qu'ils vont en Judée et en Samarie, à partir du chapitre 8, verset 5, jusqu'au chapitre 12. Et là, les disciples commencent à évangéliser dans ces régions-là. Et là, il y a toutes sortes de choses qui se passent. Et c'est très intéressant de voir comment le Seigneur les accompagne et les aide à relever les défis au fur et à mesure que les défis se présentent. Et ça, il y a beaucoup d'enseignements pour nous à cet égard-là. Et finalement, la troisième section du livre, qui part à partir du chapitre 13 et qui va jusqu'à la fin, au chapitre 28, c'est « Témoins aux extrémités de la terre. Et on sait que ça finit à Rome, où Paul est emprisonné. Donc, ici, on voit que le livre des Actes est vraiment divisé selon Actes 1-8. Exactement ce que Jésus avait dit qui était pour arriver. Ils ont reçu le Saint-Esprit et ensuite ils ont été témoins, Jérusalem, Judée, Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et naturellement, on pourrait dire le livre des Actes, c'est le livre qui n'est pas terminé. Imaginez-vous, là, dans le ciel, là, présentement, là, il y a un chapitre sur l'Évangile à Trois-Rivières. Oui. Nous, on l'a pas, ça. Mais le Seigneur l'écrit. Le Seigneur, il l'a au ciel parce que c'est la continuité de ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est qu'on est la continuité du ministère de Jésus. Le Seigneur nous a donné ce privilège en tant que chrétien et en tant qu'église qu'il a établi ici à Trois-Rivières et les autres églises qu'il a établies ici aussi dans la région, en Mauricie. On a le privilège de faire partie de son ministère. On est invité dans son ministère. C'est pas notre ministère, c'est son ministère. Et là, nous, on peut participer à son ministère. Et il me semble que moi, c'est quelque chose qui me stimule dans ma vie, dans les décisions que je prends au quotidien. Je veux faire partie du ministère de Jésus. Autrement dit, moi, je veux faire partie de son équipe. Je veux être avec lui. Je veux travailler avec lui. Je veux être un instrument utile entre les mains de son maître. Quelle chose extraordinaire qu'on a comme Église à pouvoir collaborer avec le Seigneur et faire partie de l'histoire. L'histoire chrétienne, l'histoire de l'Église du Seigneur Jésus. Et ça, c'est notre privilège aussi, nous, à Trois-Rivières en tant qu'Église. Fantastique. Gloire à Dieu. Maintenant, ici, quand on a cette partie, du chapitre 1 au chapitre 8, où ils sont témoins à Jérusalem, il y a deux choses qu'on voit principalement. C'est la puissance dans l'Église, premièrement. Alors, il y a la naissance de l'Église qui arrive avec le Saint-Esprit qui est envoyé, et que là, il y a le baptême de l'Esprit pour la première fois qui a lieu, et là, on voit les manifestations de Dieu et de l'Esprit qui se manifestent à travers cette Église-là et qui devient une Église brillante, une Église qui a un témoignage fort, et que le Seigneur est avec eux et les bénit. Et ensuite, on voit dans le chapitre 3 jusqu'au chapitre 8, on voit la progression de l'Église, comment l'Église est en train de faire des progrès, de progrès en progrès. Et ça, c'est dans les 8 premiers chapitres. Ensuite, dans la deuxième partie, où c'est la Judée et la Samarie, là ici, on voit l'expansion de l'Église, où là, l'Église commence à s'étendre un peu plus loin, en allant jusque dans la Samarie. Et là, on voit que ça bouscule des attitudes, des valeurs, où là, il y en a qui commencent à être un peu... parce que la Samarie, bon, et puis, oui, ça faisait partie d'Israël, mais il y avait une chicane entre les Juifs et puis les Samaritains. Mais là, on voit que Dieu va jusque vers les Samaritains. Et l'Église constate ça, les leaders constatent ça. Et là, ensuite, la troisième étape, et là, on voit, là, c'est le rayonnement de l'Église. Là, c'est l'explosion. Parce que là, on sort des terres battues. Là, le Seigneur va beaucoup plus loin. Et là, ça bouscule encore. Et là, le Seigneur fait des choses extraordinaires. Et grâce à ce rayonnement d'Église, c'est là où l'Évangile a pris une expansion extraordinaire, parce qu'elle est sortie du milieu juif comme tel. Et là, le Seigneur a donné un champ beaucoup plus large, qui en fait est le monde, et qu'on appelle, qui inclut les païens, c'est-à-dire les non-juifs, ce que nous sommes, en tout cas pour la plupart d'entre nous, sinon la majorité d'entre nous, presque la totalité d'entre nous. On n'est pas de cette catégorie de juifs, on est vraiment de ceux qu'on appelle les non-juifs, les païens. Alors ça, c'est le portrait global, et on va essayer de parcourir ensemble, naturellement, étant donné qu'il y a 28 chapitres, on sera pas capable d'aller chapitre par chapitre et puis d'aller en profondeur dans ça, mais je vais essayer quand même de parcourir, j'ai divisé tout le livre avec ces thèmes-là, et là, il y a certains messages, des fois 3, des fois 5, des fois 6, surtout vers la deuxième partie, la troisième partie que j'avais pas couvert la première fois que j'avais enseigné sur le livre des Actes, donc on va regarder ça aussi ensemble, mais ça va bien coordonné avec le projet qu'on a qui s'en vient, à l'été qui s'en vient. Maintenant, ça, c'est une chose. Alors, ce livre des Actes raconte l'histoire d'hommes et de femmes qui ont pris au sérieux les dernières paroles de Jésus de faire de toutes les nations des disciples. La première chose qu'ils devaient faire, c'était d'attendre. La deuxième, de recevoir la puissance du Saint-Esprit, ce qui allait avec le fait d'attendre que le Seigneur avait dit. Et on voit qu'ils sont allés dans la prière. Alors, dans l'attente, ils ont été dans la prière, ils ont cherché la face de Dieu et attendu que le Seigneur réponde à cette promesse de leur donner le Saint-Esprit. Et troisièmement, la troisième chose qu'ils devaient faire, c'est simplement respecter le programme de Dieu. Hein? Le programme que le Seigneur avait établi pour eux autres. Maintenant, une question, il y a deux questions importantes. La première question, c'est comment claire est la mission de Christ dans votre vie? C'est la chose la plus importante. Si vous vous identifiez comme un chrétien, comme un disciple de Jésus, la chose qui devrait être la plus importante, c'est la mission de Christ. Et ça, ça devrait faire partie de votre agenda, ça devrait faire partie de votre façon de penser, ça devrait faire partie de vos décisions, de votre façon de vivre votre vie, votre quotidien. Mais comment claire est la mission de Christ dans votre vie? Et la deuxième question importante, c'est comment précise est votre stratégie? Alors, si j'ai la mission, ensuite, ça me prend une stratégie pour accomplir cette mission-là. Et ici, on voit dans la parole de Dieu des conseils qu'on peut recevoir de cela. Et même le livre des Actes nous aide énormément à nous recentrer par rapport à la mission de Christ et à nous recentrer par rapport à la stratégie que Dieu utilise pour accomplir cette mission-là. Maintenant, la mission de Christ, qu'est-ce que c'était exactement? Est-ce que la mission de Christ, c'était de faire tout le travail par lui-même? C'est-à-dire, sa mission, c'était d'aller à la croix, de mourir à la croix, de prêcher la bonne nouvelle et d'annoncer le salut à tous ceux qui en avaient besoin. Est-ce que c'était ça, sa mission? Non. Quelle était la mission de Christ? Qu'est-ce que Christ, lorsqu'il est venu, voulait accomplir? Que quand il est parti, il pouvait dire, je peux partir, puis je sais aussi que la mission, elle va se réaliser. Il voulait qu'on participe à son plan. Et ça, vous savez, ça s'appelle un mouvement de multiplication. C'était ça, sa mission. Christ voulait créer un mouvement de multiplication. C'est pour ça qu'il a choisi 12 disciples et qu'il s'est investi particulièrement d'une façon beaucoup plus intense. C'est sûr, il a répondu aux besoins autour de lui, mais plus il approchait vers la croix et vers sa fin, et même avant de partir, il a essentiellement été seulement qu'avec ses disciples. Parce qu'il voulait être sûr qu'ils comprennent l'importance de la mission qu'il était pour leur laisser. Et du fait qu'il voulait créer un mouvement de multiplication. C'est pour ça que pour nous, c'est très important de comprendre ça. Si on est à l'école du dimanche, par exemple, et qu'on enseigne, il faut qu'on pense à la multiplication. Il faut pas qu'on ait juste une personne qui est fidèle, qui est bonne et qui fait ça comme faut. Il faut qu'on puisse avoir quelqu'un qui est à côté et dans lequel elle va pouvoir se reproduire et se multiplier. Puis on essaye de faire ça dans tous les ministères à l'Église, d'avoir des personnes qui sont là pour justement apprendre et se multiplier. C'est la même chose au niveau de notre vie spirituelle. On doit se multiplier. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça, se multiplier? Ça veut dire faire des disciples qui font des disciples. C'est ça le mouvement de multiplication. Être une église qui engendre d'autres églises. C'est ça aussi la multiplication que le Seigneur nous demande. Il faut qu'on pense à ça. Il faut qu'on veuille ça. C'est pour ça que pour nous, dans un des éléments de la stratégie qui est tellement importante, c'est les groupes maison. Parce que si on pouvait arriver à vraiment avoir des groupes dynamiques, des groupes où il y a des chrétiens qui sont en train de marcher avec le Seigneur, qui sont disciplés, qui sont enseignés, qui sont dynamisés, et qu'on prend soin les uns des autres, et que là, on est là pour se soutenir mutuellement, et ainsi de suite, eh bien là, à un moment donné, il va y avoir une multiplication. Fait que c'est pour ça qu'on a des coordonnateurs, puis des apprentis qui vont pouvoir apprendre. C'est pour ça qu'on l'a aussi au niveau des pasteurs. On a des pasteurs en formation. C'est pour ça qu'on l'a au niveau des diacres. On a des diacres en formation. Vous voyez, c'est le mouvement de multiplication. C'est pas juste qu'on fait bien ce qu'on a à faire. C'est qu'on puisse montrer comment faire ce que le Seigneur nous a demandé de faire. Et la première façon, c'est en faisant nous-mêmes. Tout ce que Jésus a commencé de faire et d'enseigner. Si moi je ne suis pas crédible à vos yeux, si moi je ne suis pas un modèle de vie chrétienne, si ma famille, si mes enfants ne sont pas un modèle de vie chrétienne. Et là ici je parle pas de perfection là, vous comprenez? On est tous là des mortels et on marche tous dans un monde difficile dans lequel il y a des problèmes et dans lequel il faut gérer des situations des fois difficiles, mais il faut qu'on soit des modèles, il faut qu'on soit crédible de dire comment est-ce que je m'en sors quand je vis des difficultés, quand je suis aux prises avec des choses. Est-ce que je mets la parole de Dieu en pratique? Ça veut pas tout le temps dire que ça va être des succès, mais ce que ça va vouloir dire, c'est que j'ai mis ma vie devant Dieu, je me suis placé devant Dieu, j'ai laissé la parole de Dieu me nourrir, me bousculer, me transformer. Et c'est ça que j'aime, moi, voir dans des gens qui sont enseignables. J'essaie d'être moi-même enseignable. Et quand j'ai besoin de m'humilier, je m'humilie. Si c'est devant vous, ça va être devant vous. Si c'est devant ma femme, devant mes enfants. J'essaie de reproduire ce modèle-là parce que je vis pour le Seigneur. Et je veux que ce soit Jésus qui paraisse un peu plus dans ma vie de jour en jour. Et là où je suis le plus découragé, c'est quand je vois comment c'est mon caractère qui est ressorti et non pas la personne de Jésus. Quand je suis le plus heureux et le plus fier, c'est de voir que là, Seigneur, c'est toi qui as eu la prééminence dans ma vie, dans cette situation-là, dans la façon de gérer ce problème-là, dans la façon de me réconcilier dans telle chose, et ainsi de suite. De prendre une décision et tout ça. C'est ça le modèle que le Seigneur nous donne. Parce que là, ce qui va arriver, ça va être de la multiplication. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Il veut qu'on se multiplie. Alors, comment claire est la mission de Christ dans votre vie? Ça, c'est la première question importante. Vous savez, il y a des statistiques qui existent, qui montrent que il semble que les églises ont perdu de vue cette mission claire du Seigneur. Et ça veut dire, des églises, on parle des croyants, des chrétiens. Regardez bien, 80% des églises évangéliques au Canada ne grandissent pas. Aucune croissance. Même s'il y a quelque chose, il y a une décroissance. 80%. Sur les 20% des églises qui grandissent, parce qu'il y en a 20%, moins de 2% ont grandi à cause de nouvelles conversions. Donc, s'il y a 80%, autrement dit, d'églises qui stagnent, puis même qui décroissent, puis là, il y en a 20% qui grandissent, mais moins de 2%, juste 2%, même pas 2%. Que c'est à cause qu'il y a des nouvelles conversions, puis que le Seigneur ajoute à l'Église, comme on voyait tantôt dans le livre des Actes. Donc, il y a un problème. 50% de toutes les églises au Canada n'ont pas eu de nouvelles conversions, selon ce qu'ils rapportent là, dans leur... ils sont conscients de ça. Parce que dans une église, il peut y avoir des nouvelles conversions, mais on peut ne pas grandir, parce qu'il y en a qui partent tout le temps. Il y en a qui meurent, il y en a qui changent de ville, et ainsi de suite. Imaginez-vous, en Amérique du Nord, présentement, il y a entre 4 et 5 000 églises qui ferment leurs portes chaque année. C'est énorme. Et c'est sûr que c'est un phénomène particulier en Amérique du Nord, parce que si on regarde au niveau des missions, là, et l'Évangile qui explose à peu près partout dans le reste du monde, sauf en Amérique du Nord, puis en Europe à certains endroits. C'est incroyable. Alors, c'est comme si le matérialisme, c'est comme si l'humanisme, c'est comme si l'abondance fait que ça a des répercussions énormes. Il y a quelque chose qui va pas. Quand on était justement à Vancouver, à l'église où il était là-bas, il y a quelqu'un qui nous a dit qu'il était dans un groupe maison comme nous on a. C'était pour les jeunes couples. Et là, il disait, tous les couples qui étaient dans notre groupe maison ont tous eu des relations sexuelles avant de se marier. Tous de famille chrétienne. Il y a quelque chose qui ne va pas. Comprenez? Qu'est-ce qu'il y a qui ne va pas? Il y a l'exemple fameux que John MacArthur donne de la côte californienne aux États-Unis. Apparemment, je ne l'ai pas vu, là, mais apparemment, sur la côte californienne, tu vois plein de clubs de sauvetage, tu sais, pour les bateaux, là, ceux qui sont pris. Mais là, c'est tous des clubs fermés. Et là, il dit l'histoire, parce que là, il y en a, je sais pas combien, mais c'est plein, là. Puis c'est tous des clubs où c'est des élites qui vont là, puis il faut tailler de l'argent, puis c'est très luxueux, puis ces affaires-là. Et puis là, c'est un club fermé, là, c'est-à-dire, c'est pour ceux qui sont membres, et puis tu deviens pas membre qui veut, puis tout ça, là, puis ça dépend qui tu es, puis quel standing que tu as, puis ainsi de suite. Mais il disait, ce qui est intéressant, c'est de connaître l'historique de ces clubs-là. Parce qu'au départ, le premier club qui a ouvert, savez-vous c'était pourquoi? C'était pour aller sauver ceux qui étaient dans des tempêtes. Puis là, il partait, puis comme ça, puis là, il allait aider. Puis là, un moment donné, ça a commencé tranquillement, puis là, ils se sont retrouvés ensemble, puis là, ils ont trouvé ça le fun, puis là, ils ont embelli leur station, puis à un moment donné, c'est devenu un club fermé. Ils ne faisaient plus de sauvetage. Fait que là, un autre club commençait parce que là, le besoin demeurait. Puis là, un autre club commençait. Des gens, soit qui partaient du club qui ne voulait plus faire ça, puis là, disaient non, moi, je veux continuer. Alors là, lui, faisait ça. Puis là, il y en avait d'autres. Puis là, avec le temps, même phénomène. Puis là, c'est ça, il dit, tout le long de la côte californienne, c'est tous des clubs élites comme ça qui ont toutes perdu leur raison d'être. Ah, il ne faut pas qu'on soit une église comme ça, fermée sur elle-même, hein? Ça, c'est le danger, n'est-ce pas? Où là, on a de la misère à accueillir des nouveaux. Les nouveaux arrivent ici, puis personne ne vient les voir. Personne ne vient les saluer, ou personne ne les invite à... Hein? Les gens ne trouvent pas leur place. Et là, si quelqu'un a des difficultés, a des problèmes, ben là, on n'est pas là, on n'est pas là pour t'aider... On n'est pas là pour prendre soin de toi. On n'est pas là pour pleurer avec toi. On n'est pas là pour prier pour toi. Il ne faut pas que ça soit comme ça. Hein? Non, on doit être une église ouverte. Parce que c'est une église qui est centrée sur la mission. Si dans ma vie personnelle, la mission de Christ est claire dans ma vie, c'est sûr et certain que je vais accepter d'être bousculé. C'est sûr et certain que je vais accepter d'être dérangé. C'est sûr et certain que je vais accepter d'être avec du monde qui peut-être des fois sont pas tout le temps faciles, puis qui viennent me chercher. Parce que là, c'est l'amour de Christ qui me pousse. Je suis ici pour lui, je suis ici pour annoncer l'Évangile. Et ça, c'est absolument important. Maintenant, avant d'aller à la deuxième question, de regarder ça brièvement, j'aurais juste quelques réflexions ici. Premièrement, combien d'entre vous ont partagé le plan du salut à au moins une personne la semaine passée? Ah, il y en a quelques-uns. Amen. 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 Combien depuis les deux dernières semaines? Il y en a encore quelques-uns. On est timide de lever la main, hein? Depuis un mois, trois mois, six mois, un an, combien ont jamais partagé le plan du salut, montrant à quelqu'un comment se réconcilier avec Dieu? Vous savez, c'est triste quand on perd ça dans notre mire. Parfois, on dit, j'ai pas vraiment beaucoup de contacts. Ah, vous savez, on a des contacts, c'est incroyable. On en a, on s'en rend même pas compte. Cet été, nous autres, on est allés dans... En fait, on a fait d'un océan à l'autre cet été dans... on est allé en Nouvelle-Écosse. À un moment donné, on était dans une petite ville, Lunenburg, des vieilles églises là qui sont là depuis des centaines d'années. Et là, on rentre dans une église luthérienne, juste pour visiter l'église, la bâtisse. Une madame est là. Elle nous accueille. Commence à jaser avec. Puis à un moment donné, de fil en aiguille, bon ami, on commence à partager l'Évangile. Puis là, c'est venu, la madame a dit, moi, elle dit, ici, j'aime pas tellement ça. Je dis, non, comment ça, vous aimez pas ça? Oh, elle dit, ici, ils prêchent le salut en Jésus par la foi seulement. Ah non, puis vous aimez pas ça, c'est quoi qui vous dérange? Elle commence à partager. Là, je commence à y partager l'Évangile. Là, la porte se rouvre. Là, ma femme embarque, son oncle qui était là aussi. Et là, les trois, on est en train d'y témoigner. Et là, on a pu y partager le plan du salut. Juste de même. Là, mon ami me dit, « Mais semblait que vous étiez en vacances, vous! » J'ai dit, « Madame, ça pour moi, c'est pas un travail. » Si je devais venir ici juste pour vous, je serais venu. Parce que ce qu'on vous a partagé aujourd'hui, c'est la chose la plus importante. Jésus vous aime. Elle s'appelle Barbara. Priez pour Barbara. Elle a été touchée par le Seigneur. À un moment donné, elle a dit même, elle dit, c'est vrai, il y a une église baptiste pas loin d'ici. Elle dit, il y a beaucoup de monde qui va là. À un moment donné, elle va peut-être ressoudre là et elle va entendre l'Évangile à nouveau et se convertir. Elle a même dit à un moment donné, elle dit, priez pour moi parce qu'elle dit, moi je sais que je ne vais pas au ciel. Incroyable. Incroyable. Des occasions de parler du Seigneur, on en a. Il faut simplement les saisir. Je vais terminer avec ceci. Très brièvement, comment changer cette tendance d'un refroidissement, d'une décentration? C'est des mots que j'invente, là. Mais il faut se recentrer sur Christ. Premièrement, il faut retourner à la manière de faire de Jésus. Quelle était la manière de faire de Jésus? Bien, sa manière de faire de Jésus, c'était de dépendre totalement de son Père. On le voit dans sa vie. Nous aussi, on doit dépendre totalement du Seigneur, de Dieu, de notre Père Céleste et du Saint-Esprit. C'est ça de retourner à la manière de faire de Jésus. C'est aussi simple que ça. Deuxièmement, on doit rétablir l'engagement des premiers chrétiens à former des disciples, qui forment des disciples et qui reproduisent des leaders. Oui. Il faut qu'on redevienne des disciples de Jésus. Engagé, prêt à le suivre coûte que coûte. Et ça, c'est une décision personnelle de vouloir marcher selon la parole de Dieu, selon le Seigneur, ce qu'il nous a demandé, ses instructions. Et troisièmement, il faut revitaliser le tonus de notre foi. On a besoin d'avoir une foi qui est vraiment dynamique. Vous voyez? Une foi qui est centrée sur Dieu, centrée sur les promesses de Dieu. On a besoin de laisser notre foi être stimulée à nouveau, où là, on espère encore que Dieu peut faire des grandes choses, que Dieu est encore capable de sauver des gens. Des fois, j'entends ça, il me semble que j'ai de la misère à annoncer l'Évangile parce qu'on dirait que ça fait rien. C'est comme si on a perdu de vue que l'Évangile, c'est la puissance de salut pour quiconque croit. Dieu est capable de sauver encore aujourd'hui. Amen. Amen! Dieu est encore capable de mettre des gens sur notre route qui ont besoin d'entendre l'Évangile. Amen! Amen. Maintenant, sommes-nous là, nous? Avons-nous la foi encore? Est-ce que vous priez le matin en disant, Seigneur, et en passant, ce matin-là, justement, j'avais demandé au Seigneur, Seigneur, si tu veux m'utiliser aujourd'hui, je suis disponible. Puis, c'est dans la soirée que ça m'est revenu, ça. J'ai dit, waouh, c'est vrai, j'avais prié ce matin. Puis, garde l'occasion incroyable que le Seigneur nous a donnée. Est-ce qu'on prie ça? Est-ce qu'on a le réflexe de demander au Seigneur, Seigneur, veux-tu m'utiliser ce matin? Veux-tu m'utiliser aujourd'hui? Veux-tu que je parle à quelqu'un de toi? Seigneur, ouvre mes yeux. Rends-moi alerte. Rends-moi actif. Le faites-vous? Ça va revitaliser le tonus de votre foi. Quand on se ressente, vous savez, par rapport à la mission, une des choses qu'on voit, c'est que ça nous stimule énormément. Et là, on commence à recroire aux promesses de Dieu, à la puissance de Dieu, à la réponse à la prière, et que Dieu est capable de faire de grandes choses. Êtes-vous prête ce matin à laisser à Dieu la possibilité de vous parler ce matin? J'aimerais ça qu'on puisse terminer, juste peut-être en fermant les yeux. J'aimerais ça juste vous nous inviter à réfléchir à quelques questions que j'aimerais vous poser ce matin en terminant. Voulez-vous ce matin revenir à la manière de faire de Jésus, à son exemple, à son modèle? Voulez-vous que votre vie soit centrée sur Dieu en totale dépendance de l'Esprit? Vous devez céder ce matin votre cœur au Seigneur. À nouveau, je sais que vous l'avez sûrement fait. Peut-être que vous êtes déçu de vous-même, triste de ce que vous avez fait comme décision. Ne laissez pas votre esprit être abattu par cela. Le Seigneur, lui, vous savez, il est prêt à nous accepter comme on est. Il veut simplement qu'on lui donne accès à notre vie. Voulez-vous ce matin rétablir votre engagement comme celui des premiers chrétiens, d'être vous-même un vrai disciple de Jésus, qui désire former d'autres vrais disciples de Jésus, qui deviendront des leaders? Est-ce que vous voulez ce matin vous engager, tout comme les premiers chrétiens? Est-ce que vous voulez ce matin que votre foi soit revitalisée? Est-ce que vous voulez que votre foi soit audacieuse, une foi qui tire sa source uniquement de la parole de Dieu, une foi qui agit, qui ose demander à Dieu, une foi qui est fondée sur la puissance de Dieu, que Dieu est capable de faire l'impossible, une foi même qui attire l'attention de Dieu tellement qu'elle est audacieuse? Voulez-vous ce matin que votre foi soit revitalisée? Seigneur notre Dieu, nous nous plaçons devant toi ce matin et nous te demandons ta grâce. Seigneur, nous voulons se laisser instruire par ces premiers disciples qui se sont placés devant toi, qui ont été patients dans la prière, qui ont attendu l'accomplissement de la promesse que tu leur avais faite et qu'ils ont reçu ton Saint-Esprit. Et Seigneur, ils en ont été remplis de ce Saint-Esprit. Ils se sont mis en marche pour toi. Ils ont ouvert la bouche pour toi. Ils ont donné leur vie pour toi. Ils ont proclamé la bonne nouvelle, Seigneur, pour toi. Ô notre Dieu, puisses-tu nous donner encore cette espérance vivante que tu es capable de faire la même chose encore aujourd'hui. Seigneur, viens à notre secours. Que nous soyons, nous, individuellement, de vrais disciples, des disciples qui s'accrochent à toi, des disciples qui se laissent transformer par toi, modelés entre tes mains et capables de mettre en pratique ta parole, parce que le Saint-Esprit a pris le plein contrôle de notre vie. Ô Seigneur notre Dieu, fais de notre Église une Église qui va rayonner, non seulement ici autour, mais encore plus loin, Seigneur, parce que des vies vont être transformées, des vies vont être guéries, des gens qui ont des blessures depuis des années et qui savent pas comment s'en tirer, qui ploient sur le poids énorme de leurs blessures et de leurs péchés et de leurs déceptions. Ô Seigneur notre Dieu, que la bonne nouvelle puisse guérir des cœurs, que ta parole sache instruire et conduire. Ô Seigneur notre Dieu, fais de nous une telle Église, que nous soyons aimantes, une Église capable d'accueillir des nouveaux, d'aimer ceux qui ont toutes sortes de problèmes et de difficultés, et que Seigneur, nous soyons au rendez-vous. Remplis-nous de ton Saint-Esprit ce matin. Seigneur, tu vois les cœurs ce matin de ceux qui sont ici. Tu vois ceux, Seigneur, qui sont attristés, ceux qui sont endoloris, ankylosés. Ô Seigneur notre Dieu, puisses-tu entendre la prière de ceux qui se sont tournés vers toi ce matin et qui t'ont demandé que tu puisses venir faire la différence dans leur vie. Prends-les, Seigneur notre Dieu. Transforme-les pour la gloire de ton nom. On s'attend à toi, Seigneur, parce qu'on croit que tu es vivant et que tu es notre Père et que tu nous aimes. Et c'est dans le nom précieux de Jésus que je t'ai prié ce matin. Amen.